Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 22 septembre 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sebudia. Tout d'abord les titres. Discours du président américain Joe Biden et d'autres dirigeants du monde hier à l'Assemblée générale de l'ONU. Notre correspondante Dili Diko fera le point. Arrivé hier au Mali du chef de la junte guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya. Au Burkina Faso, verdict au procès d'Abo Boukari, le leader syndical étudiant assassiné en 1990. Au Cameroun, l'armée reconnaît que deux civils ont été tués par des militaires en zone anglophone. L'ancien président américain Donald Trump et ses enfants poursuivis au civil à Washington, à New York, pour fraude fiscale en rapport avec sa compagnie. Ne manquez pas notre page sport avec Yacouba Ouédraogo. Pour l'instant, le journal. La semaine dernière, la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, cette semaine de haut niveau se poursuit ce jeudi à New York. Ce matin, le programme inclut les discours des dirigeants du Niger, du Burundi et de la Guinée. En attendant le début de la séance plénière, Dili Diko revient sur les discours prononcés hier soir.
Ali Bongo, le président du Gabon, a estimé que le monde se trouve à une période charnière du système international et qu'il est en proie à une crise multidimensionnelle. Il a appelé à une réponse collective face aux menaces à la paix et à la sécurité et insisté sur la nécessité de tacler les défis liés à l'économie.
Une menace tout aussi insidieuse plane désormais sur nos économies. Cette menace, c'est l'inflation. Partout dans le monde, l'inflation atteint de tristes records. Personne n'est épargné. Les entreprises comme les ménages, le Nord comme le Sud, ces effets sont dévastateurs. Il est crucial d'évaluer le parcours à l'aune de la menace que continue de faire peser la pandémie de la COVID-19 sur nos économies.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a également donné une place importante à l'économie dans son discours. Il a évoqué les difficultés de l'Afrique à avoir accès aux céréales depuis le début du conflit en Ukraine et regretté que seuls 17% des exportations de blé débloquées soient destinées à l'Afrique. Monsieur Ouattara a aussi parlé des tensions entre son pays et le Mali, exacerbées par l'arrestation au Mali en juillet de soldats ivoiriens accusés par Bamako d'être des mercenaires. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ils ne le sont pas. Écoutons Monsieur Ouattara.
Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de l'AMINUSMA au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien.
D'autres dirigeants africains ont pris la parole mercredi, dont ceux du Ghana, de la Libye et de Madagascar. Toujours mercredi, discours préenregistré du président ukrainien Volodymyr Zelensky, diffusé dans l'Assemblée onusienne. Une résolution avait été spécialement adoptée pour lui permettre de livrer virtuellement son discours consacré au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Monsieur Zelensky a demandé que Moscou soit puni pour agression. S'agissant maintenant de la journée de jeudi, ce matin, le président du Niger, Mohamed Bazoum, fera son allocution en premier. Puis ce sera au tour du Burundi et en fin de journée, Bernard Gomou, premier ministre de la Guinée, prendra la parole. Dili Diko, VOA Afrique, New York.
Avant le discours du président Biden devant l'Assemblée générale, son homologue russe Vladimir Poutine avait décrété hier en Russie la mobilisation de 300 000 réservistes pour relancer son offensive en Ukraine et brandit la menace d'un recours à l'arme nucléaire que Washington a dit prendre au sérieux. Le point avec Eric Manirakidza.
À la tribune de l'ONU, le président américain Joe Biden a attaqué frontalement la Russie, accusé d'avoir violé de manière éhontée les principes des Nations Unies depuis son offensive en Ukraine. « Il est impossible de gagner une guerre nucléaire et il ne faut pas la mener », a insisté M. Biden. Quelques heures plus tôt, dans une adresse à la Nation, M. Poutine s'est dit prêt à utiliser tous les moyens dans son arsenal face à l'Occident qu'il a accusé de vouloir détruire la Russie. Cette mobilisation de réservistes marque une nouvelle escalade du conflit au lendemain de l'annonce par la Russie de référendum qui vise à annexer quatre régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine contrôlées en partie par Moscou. La doctrine militaire russe prévoit la possibilité de recourir à des frappes nucléaires si des territoires considérés comme russes par Moscou sont attaqués. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part dit ne pas croire à l'utilisation d'armes nucléaires par Moscou. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a lui dénoncé la rhétorique nucléaire dangereuse de M. Poutine, ajoutant que l'Alliance Atlantique va continuer de soutenir l'Ukraine. La Chine, courtisée par la Russie, a semblé prendre certaines distances en appelant au cessez-le-feu et au respect de l'intégrité territoriale des États.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir en Guinée, est arrivé hier à Bamako à bord d'un avion mis à sa disposition par les autorités maliennes. Sa visite a lieu alors que le Mali célèbre ce jeudi le 62e anniversaire de son indépendance, Nathalie Barge.
Un document du ministère des Affaires étrangères malien transmis aux missions diplomatiques indique qu'il s'agit d'une visite d'amitié et de travail. Il est prévu ce jeudi, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, un sommet extraordinaire de la CDAO, principalement consacré à la Guinée et au Mali. Le président en exercice de l'organisation ouest-africaine, le Bissau-Guinéen Oumarou Sissoko Embalo, a prévenu hier que la Guinée risquait de lourdes sanctions si elle persistait à vouloir maintenir une transition de 3 ans. La CDAO a sanctionné le Mali en janvier pour le projet des militaires de rester au pouvoir jusqu'à 5 années supplémentaires. Elle a levé l'embargo lorsque le colonel Assimi Goïta s'est engagé sous la pression à organiser des élections en février 2024. Les autorités guinéennes qui s'étaient solidarisées avec Bamako face aux sanctions avaient maintenu leurs frontières ouvertes. Le Mali et la Guinée restent suspendus des organes de la CDAO.
Verdict au procès d'Abo Boukari, le leader syndical étudiant assassiné en 1990 au Burkina Faso. Il est tombé très tôt ce matin. Les 3 inculpés ont écopé de peines d'emprisonnement ferme allant de 10 à 30 ans. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Les 3 inculpés ont tous été reconnus coupables par le tribunal dans l'assassinat de l'étudiant d'Abo Boukari en 1990. Selon le verdict rendu très tôt ce jeudi, le général Gilbert Djingira a été condamné à 20 ans de prison ferme plus une amende d'1 million de francs CFA. Son co-accusé, le colonel Mamadou Bamba, lui écope de 10 ans ferme plus 1 million de francs CFA. Le 3e inculpé, Magloire Yougoubare, qui ne s'est pas présenté au procès, a été jugé par contumace. Il est condamné à 30 ans de prison ferme et doit payer une amende de 5 million de francs CFA. Un mandat d'arrêt a été décerné contre ce dernier. Un verdict rendu après 3 jours de procès. mais surtout 32 ans d'attente. Il s'agit là de l'un des dossiers emblématiques du pays qui vient d'être jugé. Dabo Boukari, étudiant en 7e année de médecine, militant de l'ANEB, l'Association nationale des étudiants burkinabés, a été enlevé le 19 mai 1990 à la suite d'une manifestation pour réclamer de meilleures conditions de vie et d'études. Selon les témoins de l'époque et qui sont passés à la barre, il a été torturé à mort et inhumé à Pau, à près de 150 km au sud de Ouagadougou. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, arrestation par les militaires congolais et ougandais d'un commandant des ADF de nationalité kényane, Mohamed Ibrahim, qui est originaire de Mombasa, a été arrêté selon l'armée dans la région de Boga, dans le territoire d'Irumu, dans la province d'Ituri, où les ADF sont accusés d'atrocités indicibles. En Haut-Cameroun, 3 militaires ont été arrêtés et incarcérés à la gendarmerie de Bangui pour leur implication présumée dans la mort de 2 civils lundi dans la région séparatiste anglophone du nord-ouest Naniptalani.
Les 3 militaires ont été désarmés, démobilisés, sortis de la zone et mis aux arrêts à la compagnie de gendarmerie de Bangui, précise le communiqué du ministère de la Défense. Il s'agit d'une mesure conservatoire en attendant l'enquête pour faire la lumière sur cet incident qui a entraîné la mort de 2 femmes lundi dans le village Nilbat-Ondek, dans le département de la Momo. Selon le ministère, les 3 soldats appartiennent au bataillon des troupes aéroportées de Koutaba. Ils s'en étaient pris à des habitants sur lesquels l'un des soldats a ouvert le feu. Les autorités promettent un traitement légal, rigoureux, une fois que l'enquête aura permis d'en préciser les contours et les responsabilités.
L'ancien président américain Donald Trump et ses enfants sont poursuivis au civil à New York pour fraude fiscale en rapport avec sa compagnie, Michel Joseph.
La plainte, déposée auprès d'un tribunal de Manhattan, est le fruit de plus de 3 ans d'enquête. Selon la procureure générale, Letitia James, les investigations ont permis de fournir la preuve que la Trump Organization, qui gère des immeubles, des hôtels et des golfs, s'est rendue coupable de fraude fiscale en sous-évaluant la valeur de certains de ses biens afin d'obtenir des réductions d'impôts. L'ancien président nie toute malversation et dénonce une chasse aux sorcières. La Trump Organization juge infondées les accusations de la procureure, qui est démocrate.
À présent, l'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
8 athlètes kényans sanctionnés pour dopage depuis juillet.
Oui, l'athlète kényane Liliane Kasait Rengeruk, 12e de la finale du 5000 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier, est devenue hier la 8e représentante de son pays à être reconnue coupable de dopage par l'unité d'intégrité de l'athlétisme depuis juillet. La jeune femme de 25 ans, ancienne championne du monde du 3000 mètres des moins de 18 ans, a été contrôlée positive au letrozole en janvier. Sa suspension de 10 mois court jusqu'en février 2023. Parmi les 7 autres athlètes pris en flagrant délit de dopage, figure Lawrence Cherono, 34 ans, vainqueur en 2019 des marathons de Boston et de Chicago et 4e aux Jeux Olympiques l'année dernière. Face à la vague de contrôle positif, la Fédération kényane d'athlétisme a annoncé en juillet une relance de son unité de renseignement et d'enquête dans le but de démanteler les cartels et de porter la guerre contre le dopage à un nouveau niveau.
NBA Robert Sarver annonce son intention de vendre les Phoenix Suns.
Suspendu 1 an par la NBA pour comportement raciste et misogyne, le propriétaire des Phoenix Suns, Robert Sarver, a annoncé hier mercredi son intention de vendre la franchise, qui inclut aussi l'équipe féminine du Mercury évoluant en WNBA, des mots que je regrette profondément éclipsent maintenant près de 2 décennies de construction d'organisations qui ont rassemblé les gens et renforcé la région de Phoenix grâce au pouvoir unificateur du basketball professionnel masculin et féminin, écrit Sarver dans un communiqué. Il a été accusé de comportement raciste, misogyne et sexiste dans une enquête menée par le géant des médias sportifs ESPN en novembre 2021, qui s'était appuyé sur le témoignage de plus de 70 employés des Suns.
Football, Cristiano Ronaldo veut aller au moins jusqu'à l'Euro 2024.
Mon parcours n'est pas encore terminé, je vais être présent au Mondial 2022 et à l'Euro 2024. Ce sont les mots de l'attaquant portugais de 37 ans, quintuple ballon d'or, considéré comme le pilier de la Seleção en vue du Mondial au Qatar. La superstar a reçu hier, mardi, le prix Quintas de Ouro du meilleur buteur des sélections décerné par la Fédération Nationale. Le capitaine du Portugal compte 189 sélections et le record mondial de buts en équipe nationale avec 117 réalisations.
Merci, Yacouba. De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président américain Joe Biden a annoncé un fonds additionnel de 2,9 milliards de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Il en a fait l'annonce lors de son discours ce mercredi devant la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Il s'est aussi prononcé en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité et a appelé la communauté internationale à faire front commun avec l'Ukraine face à la Russie. Pour une réaction, Abdulrahman Dia, notre envoyé spécial à New York, s'est entretenu au siège des Nations Unies avec le porte-parole en français du département d'État, Johann Schmonsies.
On enveloppe de 2,9 milliards de dollars qui a annoncé le président, c'est pour les besoins des gens qui sont le plus affectés par non seulement la crise en Ukraine et son impact sur le marché mondial alimentaire, mais aussi pour parler de la sécheresse, par les conflits, par les pandémies. Et ça vient après les contributions des États-Unis jusqu'à maintenant de plus que 6 milliards de dollars. En fait, les États-Unis sont le contributeur le plus grand, le plus important pour le programme alimentaire mondial. Et ça souligne notre engagement, l'engagement des États-Unis pour aider les gens qui ont le plus besoin dans cette crise alimentaire.
Alors pour terminer, la question de la réforme du Conseil de sécurité a également été évoquée par le président Joe Biden. C'est une question qui intéresse également l'Afrique. Les présidents africains appellent à une réforme de ce conseil pour inclure au moins un pays africain. Comment est-ce que les États-Unis voient cette question de la réforme du Conseil de sécurité?
Bon, comme le président Biden a dit, les États-Unis soutiennent l'enlargement du Conseil de sécurité pour inclure plus de pays membres dans des sièges aussi permanents que non permanents. Et ça comprend aussi les pays africains et dans d'autres régions du monde. Et le programme de réforme aussi comprend des mesures, par exemple, appelées aux pays membres du Conseil de sécurité à ne pas utiliser le veto, sauf dans les cas extraordinaires, et ça doit être très rare, en particulier la Russie, malheureusement, a utilisé son pouvoir de veto pour défendre ses actions illégales en Ukraine.
Le porte-parole du département d'État en français, Johann Schmonsies. Le président russe Vladimir Poutine a mobilisé pour sa part, mercredi, quelque 300 000 réservistes pour relancer son offensive en Ukraine. Il a brandi aussi la menace d'un recours à l'arme nucléaire que les États-Unis disent prendre au sérieux. M. Poutine s'est dit prêt à utiliser tous les moyens pour faire face à l'Occident qu'il a accusé de vouloir détruire la Russie. Eric Maniraktidze a joint à Paris Sergueï Djirnov, ancien agent du KGB, les services de renseignement de l'ex-Union soviétique.
Il faut s'inquiéter de cette nouvelle phase de la guerre en Ukraine, de l'escalade du conflit. Poutine, si vous voulez, il n'a pas compris la chose principale à mon goût et à mon avis, c'est qu'il ne pourra jamais gagner cette guerre. Il croit encore qu'il est en train de la perdre, tout simplement parce qu'il lui manque des hommes. Et en réalité, c'est pas ça. C'est que Poutine mène une guerre qui n'est pas juste, une guerre qui n'intéresse absolument personne en Russie, à part lui et quelques militaires, peut-être, ou quelques nationalistes. Et donc cette guerre, il ne pourra jamais la gagner parce que l'Ukraine est en train de défendre son peuple, son territoire. Et les gens qui défendent leur territoire et leur peuple, ils sont beaucoup plus motivés et ils sont invincibles. Et Poutine ne l'a pas compris. Donc, si vous voulez, il est sur la mauvaise voie. Il a pris une mauvaise décision de commencer cette guerre et il s'enlise dans cette guerre et il s'enlise dans les mauvaises décisions. Et chaque décision depuis 7 mois qu'il prend est pire que la précédente. Et donc là, il estime qu'avec la mobilisation de 300 500, 1000 personnes dans l'armée, il pourra imposer quelque chose sur le front, mais il ne faut pas oublier non plus que ces 300 000 personnes, ce sont des personnes souvent qui manquent d'entraînement, qui ne sont pas sur le terrain, et ce n'est pas parce que vous rajoutez 300 000 personnes sur le front que ça vous donne forcément un avantage. Surtout que les Ukrainiens sont armés par des armes occidentales qui sont plus efficaces, plus sûres, plus ponctuelles, plus pointues. Et donc, avec les armes conventionnelles et avec ces armes, Poutine ne peut pas, à mon avis, vaincre cette guerre. Et il lui restera, malheureusement, une autre issue qui est issue nucléaire. Et il a parlé, d'ailleurs, de cette issue.
Comment vous avez interprété la réaction de l'Occident ?
L'Occident s'attendait un peu à ça et en même temps, on est quand même surpris parce qu'il présente la Russie comme une victime qui serait attaquée par le monde entier ou notamment par l'Occident. C'est faux. Aucun pays occidental n'a attaqué la Russie. L'Ukraine n'a pas attaqué la Russie. Donc Poutine raconte que des mensonges. Mais en même temps, l'Occident est prêt. Parce que de toute façon, la Russie, c'est un pays qui est économiquement très faible, qui ne pourra pas mener cette guerre indéfiniment. Et de toute façon, Poutine est en train de perdre cette guerre depuis 7 mois.
Vous connaissez Poutine depuis très longtemps. Vous étiez ensemble au sein du KGB. Quand vous le regardez aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez la même personnalité ?
C'est la même personnalité et une personne différente. La même personne dans le sens que quand il était à l'école du KGB, au bout d'une année de formation, les formateurs du KGB lui ont dit « Cette personne ne nous convient pas. On ne veut pas cette personne dans le service d'espionnage parce qu'il est dangereux, parce qu'il peut prendre des décisions dont il ne mesure pas les conséquences. Et ces conséquences peuvent être dangereuses pour lui et pour le service. Et c'est pour ça d'ailleurs, Poutine n'a jamais fait la carrière d'espion, contrairement à tout ce qu'on raconte. Et donc ce Poutine-là, il est le même. Ça veut dire que c'est le même personnage, sauf qu'il est devenu plus dangereux parce qu'avant, il n'était que un petit fonctionnaire au KGB. Maintenant, c'est un chef d'État qui possède le plus grand arsenal nucléaire. Donc par rapport à ça, c'est le même Poutine. Et en même temps, ce n'est pas le même Poutine parce que c'est quelqu'un qui est perverti par 22 ans de pouvoir absolu, de pouvoir dictatorial. Et donc, en fait, il s'est coupé complètement de la réalité. Et je crois qu'il ne sait plus ce qui se passe en dehors de sa tête.
Sergueï Tchernov, ancien agent du KGB, les services de renseignement de l'ex-Union soviétique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la 77e Assemblée générale des Nations Unies, dans un contexte de crise et de défis intriqués. Washington Forum sera à New York, la capitale diplomatique mondiale, durant cette rencontre annuelle des leaders de la planète. Crise sécuritaire, alimentaire et sanitaire, nous évoquerons leurs implications en Afrique et dans le reste du monde. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Cameroun, des centaines de femmes ont marché à l'occasion de la Journée internationale de la paix, mardi, pour attirer l'attention sur ce qu'elles appellent leur sous-représentation dans les efforts de paix, alors qu'elles représentent plus de la moitié de la population. Elles se disent en outre les plus touchées par le conflit séparatiste dans les deux régions anglophones du pays et par le terrorisme de Boko Haram. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé. Le récit est de Mohamedou Humfa.
À travers cette chanson, considérée comme leur hymne, les femmes camerounaises demandent qu'on leur donne une plus grande opportunité de contribuer au rétablissement de la paix. Elles ont entonné la chanson à Yaoundé et dans les villes de Bamenda, Bouya et Maroua. Moumabi Yvonne, cofondatrice du mouvement des femmes camerounaises pour la paix.
Le grand dialogue national a eu lieu. Lorsque nous avons fait les statistiques, la représentation des femmes était inférieure à 15%. Nous recommandons la poursuite du dialogue jusqu'à ce que nous ayons la paix durable dont nous rêvons tous.
Le Cameroun a organisé un grand dialogue national en 2019 dans l'espoir de résoudre le conflit séparatiste dans les deux régions anglophones. Les manifestantes affirment que ce conflit continue en partie parce que la voix des femmes n'a pas été entendue. Elles ont lancé ce qu'elles appellent les toutes premières négociations des femmes pour la paix au Cameroun. Sonkin Rachel est l'une des organisatrices.
en situation de crise particulièrement, la femme qui incarne la douceur, la tendresse, l'amour, qui est la mère de l'humanité, doit avoir son mot à dire. Les femmes souhaitent que les leaders séparatistes, notre gouvernement, que les deux s'accordent sur un cessez-le-feu, qu'ils cessent de faire parler les armes pour enfin se parler entre eux, afin que de ce dialogue découle une paix durable.
L'initiative de ces femmes est soutenue par la Fondation Friedrich Ebert, un organisme à but non lucratif financé par le gouvernement allemand. Nina Netzer, représentante de la Fondation au Cameroun.
Si un dialogue et des négociations continues sont en cours, il est très important d'avoir au moins 50% de femmes négociatrices, car elles peuvent construire des ponts entre les différents acteurs, des ponts entre le gouvernement et les groupes armés non étatiques. Les femmes ont réussi des étapes cruciales.
En février, International Crisis Group a rapporté que les femmes et les enfants ont souffert de manière disproportionnée du conflit séparatiste qui a fait plus de 3 000 morts et au moins 750 000 déplacés selon l'ONU. Le conflit avec Boko Haram, qui perdure depuis 13 ans dans le nord-est du Nigeria, a causé la mort de plus de 350 000 personnes et 2 millions de déplacés à travers le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger.
Des menus à base de fruits, c'est le concept que prône le restaurant Fruit Fresh à Lomé, la capitale togolaise. Lancé en 2018 par Aurélie Ninengan, le concept plaît et apporte une plus-value à la filière des fruits locaux au Togo. Un reportage de notre correspondante à Lomé, Amen Assignon.
Fruity Fresh est un restaurant pas comme les autres. Son menu est spécial. Jus de fruits, smoothie, salade de fruits, gâteau de fruits et autres sont les délices qu'on peut savourer. Didier est un inconditionnel de ce restaurant qui ne propose que des menus à base de fruits.
Fruity Fresh est l'un des meilleurs restaurants que j'ai découvert depuis 2019. Hein. Et je suis heureux de savoir qu'il y a quatre que je peux me rendre avec des amis, avec des proches pour passer du bon temps autour des fruits, et sans oublier que les fruits nous apportent beaucoup d'éléments pour notre santé, pour notre bien-être et pour notre épanouissement.
Pour Aurélie Ninengan, la promotrice de ce projet, l'idée d'un restaurant fruitier est motivée par le désir d'apporter des changements dans les habitudes alimentaires de ses concitoyens. Mais sa démarche vise surtout à encourager les acteurs de la filière fruits au Togo.
C'est un projet qui vise à valoriser les fruits locaux, mais aussi à soutenir les producteurs des fruits. C'est pourquoi nous-mêmes, nous allons vers les producteurs, nous faisons les visites dans les champs. Nous suivons le processus de l'évolution jusqu'à la maturité des fruits pour qu'il n'y ait pas des produits chimiques dans nos fruits. Du coup, nous prenons vraiment les fruits locaux bio, sans produits chimiques. C'est une manière pour nous d'encourager la consommation locale et pour faire avancer l'économie de notre pays.
Ananas, pastèques, oranges, papayes, mangue. Tous ces fruits qui entrent dans la composition des menus du restaurant sont fournis chaque semaine par les producteurs de diverses régions du pays. Denis Ninengan est le père d'Aurélie. Il est aussi producteur de fruits dans la préfecture des Lacs, à l'est de Lomé. Pour soutenir l'initiative de sa fille, il met aussi à disposition ses fruits.
En tant que producteur de fruits, j'essaie d'alimenter à temps Fruity Fresh. Cela me permet de vite écouler les produits. Il est important, selon moi, de valoriser les fruits de chez nous parce que nous arrivons à fournir des produits bio d'une part. D'autre part, cela nous permet d'être ponctuel à la fourniture afin qu'il n'y ait pas de rupture de stock, surtout arriver à satisfaire sa clientèle à tout moment.
Depuis 5 ans, Aurélie s'attelle à faire aimer son concept aux Togolais. Un concept inédit qui attire beaucoup de curieux et qui donne l'envie de ne plus se passer de fruits. Amélie Sillon à Lomé pour VOA Afrique.
Voilà Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.